notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Damien Carême. Damien Carême est député européen depuis peu et fut maire de la ville de Grande-Synthe, près de Calais, entre 2001 et 2019. Il a fait de cette commune de 24 000 habitants une référence de ville en transition, en mettant en œuvre une politique plaçant l'amélioration des conditions de vie de ses habitants au cœur des préoccupations.
Le maire a beaucoup de leviers, peut faire, et c'est pas forcément une question d'argent, c'est une question de sortir des sentiers battus de la politique, et puis d'arrêter de penser à ses réélections aussi.
Reflétant en version condensée l'ensemble des crises actuelles, avec sa désindustrialisation, son taux de chômage élevé, l'afflux de réfugiés, les pollutions dues aux ports et aux usines, Grande-Synthe a pourtant su proposer une réponse écologique et sociale.
J'ai voulu montrer que c'était possible. Et une fois que vous montrez aux gens que c'est possible, du coup, vous créez un facteur d'entraînement derrière.
À force de courage et d'audace politique, la ville a ainsi mis en place des vergers, des jardins partagés, des cantines bio, des transports gratuits, une mutuelle pour tous, une université populaire, des logements sociaux éco-conçus ou encore, dernièrement, un revenu de base. Face à l'inaction de l'État, Damien Carême s'est aussi battu pour faire construire un camp de réfugiés aux normes sanitaires dignes. Et c'est face à cette même inaction qu'il a lancé une plainte pour inaction climatique début 2019.
Il y a des choses à entreprendre. Alors oui, certes, on ne sera plus en dessous d'un 1,5 degré, on n'y arrivera plus. Mais si on peut limiter à 2, 2,5, plutôt que d'être à 5 ou 6 ou 8, comme certains le prédisent, c'est quand même mieux.
Avec Damien Carême, nous avons parlé d'audace politique, de combativité, d'écologie sociale, du pouvoir des maires et de l'accueil des chercheurs de refuge. Damien Carême, bonjour.
Bonjour.
Tu étais maire de Grande-Synthe depuis 2001 jusqu'à cette année, 2019, et fraîchement élu au Parlement européen. Je voulais d'abord savoir, est-ce qu'il y a eu des moments clés dans ta vie personnelle ou professionnelle qui ont changé ta façon de voir le monde ?
Ah, vaste question ça. Je pense que c'est depuis effectivement que je suis en responsabilité d'une ville, donc une responsabilité politique, même si je militais avant contre par exemple la centrale nucléaire de Gravelines, des manifestations, je faisais partie de mouvements pour des alternatives non violentes, donc contre l'armée, service militaire. Voilà, il y avait quelques engagements associatifs, militants. Après, c'est quand on est en responsabilité politique, quand on a le pouvoir politique de changer, d'influer, qu'on prend la dimension et qu'on y va, quoi, en fait, qu'on se mouille, qu'on prend des responsabilités. D'abord, qu'on y va à tâtons quand on commence. Et puis, au plus ça va, au plus on avance, au plus on prend de l'assurance, mais aussi au plus on a fait des expérimentations, on a tiré les enseignements de ces expérimentations. Et là, ces dernières années, avec les urgences, les crises qu'on a rencontrées, climatique, de biodiversité, énergétique, démocratique, sociale, sanitaire, etc., etc., agricole, enfin bref, tout. Là, oui, on met les taquets de plus en plus loin parce qu'en plus, un maire est en capacité de changer beaucoup. Sur tous ces champs, le maire a vraiment... Donc là, voilà, on prend cette dimension dans la responsabilité, je pense.
Et tes convictions écologiques, elles sont venues... petit à petit ou depuis toujours ?
Je pense qu'il y avait un fond qui était présent depuis longtemps. Quand je parle de l'antinucléaire, ça fait longtemps. Peut-être pas, je me disais, puisque j'étais pas chez Europe Écologie Les Verts au départ, j'étais au PS, c'était une famille plus sociale, j'allais dire, parce que mon père avait été militant syndical, maire socialiste aussi, avec une approche très sociale, et même si lui, finalement, il était très écolo dans sa manière de faire, il avait été maire de Grande-Synthe entre 71 et 92, et en fait, c'est lui qui a renaturé la ville, c'est lui qui a planté des poumons verts, c'est lui qui a beaucoup travaillé déjà sur l'isolation des logements, des choses comme ça, donc, mais il se disait pas écolo.
C'était le social qui était évidemment écolo ou l'inverse. Quoi.
Ouais. Et finalement, moi, j'ai suivi un peu la même forme de progression, mais en accéléré, compte tenu des urgences. Et du coup, voilà, on a poussé vraiment. Alors aujourd'hui, on livre des logements sociaux passifs parce que c'est bon sur la facture énergétique des habitants, mais c'est bon aussi pour les gaz à effet de serre que ça économise en fait sur la mobilité avec la gratuité des transports qu'avec le président de la communauté urbaine on a mis en œuvre. Voilà, il y a plein de champs, l'agriculture urbaine. Où on a une autonomie alimentaire bio sur les cantines scolaires, sur la restauration collective. Et je visais l'autonomie alimentaire de la population de toute la ville. Et ça donne des orientations. Donc, et la réponse à la crise sociale, elle est écologiste. Donc, de plus en plus, en fait, je poussais les taquets dessus. Et parce que je me suis rendu compte que finalement, l'écologie était la seule réponse à la difficulté sociale.
Ouais. Et justement, on parle beaucoup de. Enfin, on entend beaucoup parler de grandes centres comme un peu un laboratoire de ville sociale et écologique à la fois. Est-ce que c'est particulièrement pertinent de mettre en place ce genre de mesures dans des villes qui ont été abîmées par la désindustrialisation, par les multiples crises, etc.?
Oui, qu'il l'est. Elle ne sait pas qu'elles ont été abîmées. Elle est très abîmée. Il y a 28% de chômage sur la ville, 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on se doit de permettre à tous ces habitants de continuer à vivre correctement, dignement, qu'ils n'aient pas le risque d'être expulsés tous les mois parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer ou d'avoir des coupures d'énergie parce qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils préfèrent donner à manger à leurs enfants. Enfin voilà, c'est la difficulté, elle est là, elle est très présente. Et donc on doit chercher les solutions à mettre en œuvre dans les prérogatives d'un maire, dans les compétences d'une collectivité derrière. Et vraiment, on a beaucoup de leviers. On a le levier du logement, on a le levier, on le voit avec les canicules qu'on a eues, enfin de faire baisser la température en naturant les villes. Enfin, il y a plein de la mobilité, l'alimentation, le quotidien, l'économie de la fonctionnalité, par exemple, ce qu'on met en œuvre avec des réseaux d'échange de matériel, de temps, etc. Tout ça, c'est des réponses à la difficulté sociale. Qui puisent et qui sont bonnes pour la planète, pour l'environnement, pour le côté social, dans la rencontre, dans le lien social que tout ça crée sur une ville.
Ouais. Très concrètement, comment tu t'y es pris pour mettre en place toutes ces mesures? Est-ce que tu avais dès le début une vision ou est-ce que ça s'est fait chemin faisant? Parce que ça paraît, quand tu en parles, ça paraît évident que c'est possible et qu'on peut le faire. Et on se dit, peut-être effectivement que c'est moins une question de moyens financiers que d'audace, que de courage et que de volonté politique. Mais pourtant, il n'y a quand même pas non plus des milliers de villes où ça se passe. Donc c'est quoi ta recette?
Ça s'est mis en place petit à petit, vraiment. Mais alors, il y a peut-être une chose qui s'est mise en place dès le début, parce que dès que j'ai été élu en 2001 avec l'équipe qui était avec moi, en fait, on a beaucoup travaillé sur la transversalité dans la ville. Et ça, c'est un des problèmes des villes, c'est que ça fonctionne beaucoup en silo, ouais, par secteur d'activité. Et vraiment, nous, on a cassé tout ça. Et c'est long, parce que auprès du personnel, des chefs de service, il faut imposer le travail de projet commun à tous les services. Et oui, mais alors moi, je me souviens des premières réactions. Oui, mais qui va être responsable de telle ou telle chose? On s'en fout. L'important, c'est de mettre en place la solution. Et puis après, on verra la responsabilité. On l'attribuera. S'il y a des choses qu'on n'a pas prévues, on l'attribuera à une personne en particulier. Donc ça, c'est la transversalité et la cohérence de notre action. Et après, donc petit à petit, c'est cette cohérence dans l'éducation, dans la culture, dans l'urbanisme, dans l'habitat, dans les déplacements, c'est de plus en plus écologisé, entre guillemets, parce que plus on avançait, au plus les crises étaient prégnantes, au plus ça s'accélérait, mais moi je me rendais vite compte que finalement c'était possible, quoi, finalement, localement. Alors c'est vrai que faut faire preuve un peu d'audace et de courage politique à un moment donné de changer le système, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est de se dire on en est là à cause du système dans lequel on est depuis 50 ans, il faut qu'on en 60 ans, et il faut qu'on en sorte définitivement pour résoudre les crises. Parce que tout tabous, même la question migratoire que j'ai vécue particulièrement dans ma ville, puise son origine dans le système libéral, ultralibéral, mondialisation qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas un retour en arrière, c'est un retour au bon sens qu'il faut instaurer dans une ville. Et ça, ça recrée du lien social, ça redonne l'espoir de vie, ça redonne des objectifs et des utopies, mais des utopies réalistes. C'est, on fixe un objectif et des cailloux, on sème des cailloux pour atteindre cet objectif derrière. Ouais.
Si on prend un exemple, enfin un des derniers exemples des mesures mises en place sur le minimum social, ça, comment ça se finance, comment ça se matérialise?
Alors en fait, la situation, je disais 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Juste expliquer peut-être que le seuil de pauvreté, en France, il y a un revenu médian, donc 50% de la population française gagne au-dessus, 50% en dessous, qui est à 1 750 € par mois en France. Il y a deux seuils de pauvreté. Il y a un seuil de pauvreté à 50% du revenu médian et un autre seuil de pauvreté à 60% du revenu médian. Donc moi, j'ai 33% des foyers qui sont sous le seuil de pauvreté à 60%, c'est-à-dire à moins de 1 200 € par mois. Et j'ai quand même 17, presque 18% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté bas, donc avec moins de 855 €. On a mis en place un certain nombre de mesures à Grande-Synthe pour permettre aux gens, quand je reprends les jardins populaires par exemple, de subvenir à leurs moyens, à leurs besoins alimentaires par la culture, en bas de leur logement par exemple. C'est faire ces produits ménagers d'entretien ou cosmétiques à base de produits naturels pour éviter les perturbateurs endocriniens. Mais ça permet de faire un litre de lessive à 40 € au lieu de 4 € quand on l'achète. Donc voilà, de rendre aussi du pouvoir, de faire des logements ou passifs où la facture d'électricité est divisée par 7, 8. Donc du coup, ça rend du pouvoir de vivre aux habitants, mais il leur reste que moins de 855 €. Et là, c'est des décisions nationales qui doivent intervenir, comment on lutte contre la pauvreté. Et on voit bien qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, n'arrive pas à endiguer ces phénomènes de pauvreté dans notre pays. Et ben, à un moment, moi, j'ai dit, ben voilà, on a... Alors, ça faisait quelques années, 3 ans qu'on travaillait sur un plan d'éclairage public. On a regardé tout ce qu'on avait comme points lumineux sur la ville. On était à 7000 points lumineux. On en a supprimé 2000 ou 3000 points lumineux. On a remplacé toutes les lampes par de la LED. Et à minuit, on baisse de 50% l'intensité. 3h du matin, 75%. Ce qui fait qu'à la dernière année, l'économie d'énergie, c'était 476 000 euros sur la facture énergétique de l'éclairage public. Et ben, j'ai dit cet argent, on va le consacrer à la mise en place du minimum social garanti sur la ville. Donc, qui permettra aux gens... Alors, il y a 3 types de publics qui sont concernés. C'est les gens qui sont aux minima sociaux, RSA ou autres, qui sont à 450 €, même s'ils ont de l'APL, etc. Ils sont à moins de 855 € par mois. Les femmes qui vivent avec une pension de réversion de leur mari, alors le minimum vieillesse est autour de ça, mais bien souvent, chez nous en tout cas, dans le milieu ouvrier, ils accueillent un enfant à la maison qui n'a pas de boulot non plus, donc en fait, il y a une charge, une personne et demie, quoi, en fait, donc ça les fait tomber sous le seuil de pauvreté. Et il y a les travailleurs pauvres. Un salarié qui gagne le SMIC à 1200 net par mois, s'il a une femme et 2 enfants depuis 14 ans, pour être sous le seuil de pauvreté, au-dessus du seuil de pauvreté, il devait gagner 2 000 € par mois. Même si on rajoute les aides sociales, il manque quelque chose. Et donc, on met le différentiel, ce qu'on a mis en place, on met ce différentiel derrière et qu'on a réglé aux 2/3 par cette économie d'énergie plus l'argent qu'on consacrait avant au CCAS. Mmh. Et ça permet de sortir de l'angoisse sociale dans laquelle sont ces personnes tous les mois. Mmh. De savoir, dès que le mois est fini, comment je vais payer ma facture? Est-ce que je vais être en retard de loyer? Je risque l'expulsion? Est-ce qu'on va me couper l'électricité? Est-ce que je vais avoir de l'eau? Enfin, toutes les menaces quotidiennes. Et donc, de pouvoir entamer avec ces personnes un travail de reconstruction, de formation, d'insertion, etc. Derrière, même si le boulot manque sur l'agglomération. Mais au moins, ça leur permet de sortir de cette angoisse sociale tous les mois.
Et le fait de prendre l'argent, enfin économiser l'argent à un endroit et de le remettre dans un autre budget, est-ce que ça peut se faire que à l'échelle d'une ville ou est-ce que ça serait imaginable à plus grande échelle? Parce qu'on a toujours l'impression que les budgets de l'État c'est très compliqué et que l'argent on le prend à un endroit mais on ne sait pas très bien après où il va. Et l'argent de la taxe
problème.
Sur le carbone, par exemple.
Enfin, bien sûr, l'argent d'augmenter le diesel, c'est une bonne chose, je pense, moi, parce que ça a quand même des...
Si ça finance après...
Voilà, si c'était collecté dans un fonds qui permettait de faire des économies d'énergie chez les gens, finalement, leur facture à la fin du mois, elle serait la même chose. Ils paieraient plus cher l'essence, mais ils paieraient moins cher d'électricité. Donc, ça leur maintenait leur pouvoir de vivre aux habitants. Mais là, ça part dans les caisses communes et on ne sait pas où ça part. Donc, c'est ce qui est possible à l'échelle d'une ville, et on en a montré l'exemple sur des économies d'énergie alimenter un dispositif social, on peut le faire à l'échelle du pays. Mais il y a aussi cette...
En
France, on dit qu'on paye trop d'impôts, tout le temps en train de payer de l'impôt, mais on est bien content d'avoir un service de santé, même si il est mal en point en ce moment, qui fonctionne bien, et de pas avoir déboursé les milliers d'euros comme en Angleterre, comme aux États-Unis pour se faire soigner. Le système éducatif, où on n'est pas non plus au système à l'américaine, où on doit payer des milliers d'euros pour faire des études, etc., etc. C'est quand même sur nos impôts. Et moi, je vois bien tous les parents d'élèves qui viennent râler quand il y a une fermeture de classe quelque part. Bah, c'est les impôts qui financent les enseignants. Les flics, on demande des flics à tous les coins de rue. Bah, pareil, c'est les impôts qui financent tout ça. Donc, non, il faut revaloriser la chose commune, en fait, hein, qui est importante. Mais effectivement, après, ce sont des problèmes de choix politiques qui devraient être faits pour, voilà, il y a plein de choses qui sont au niveau, qui peuvent être faites au niveau local, mais aussi au niveau départemental, au niveau d'une intercommunalité. Moi, qu'est-ce qui empêcherait la communauté urbaine de Dunkerque de dire, bah, finalement, le minimum social garanti, on va le mettre en place à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque? Ce serait une belle décision politique d'amplifier sur 200 000 habitants au lieu de le garder sur 23 000 habitants. Et ça pourrait être fait au niveau national aussi.
Manque de la volonté, quoi.
Oui, c'est ça, c'est de l'audace politique. On est trop sur sa réélection. Et puis on me dit, j'ai eu quelques reproches parce que j'ai fait quelques interviews là-dessus. Oui, mais vous assistez, enfin, vous maintenez les gens dans l'assistanat. Mais non, ils savent pas ce que c'est que les gens de vivre avec 400 balles par mois. Ceux qui disent ça, ils ne savent pas ce que c'est. Personne n'a envie de continuer à vivre avec 400 balles par mois. Les mecs, ils veulent un boulot. On peut toujours prendre l'exemple des 2 ou 3% des profiteurs du système, mais dans tous les systèmes, il y a ça. Mais en règle générale, quand vous gagnez 400 balles par mois, vous pouvez pas changer de voiture, vous pouvez pas acheter un vélo, vous pouvez rien faire derrière. Donc les gens, ils sont pas, on les maintient pas dans l'assistanat, on les sort de l'urgence sociale.
Sur la situation, des migrations. La ville de Grande-Synthe a particulièrement fait sa part pour accueillir dans la dignité les réfugiés. Alors je crois que t'aimes pas trop le mot de réfugié. Chercheur de refuge. C'est plus joli. Quelle est ton analyse de la situation maintenant à l'échelle de la France ou de l'Europe? Comment ça va?
Elle est catastrophique, la situation aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Méditerranée. Il y a encore eu 115 morts la semaine dernière dans une embarcation. C'est une horreur. Le monde entier a été sensibilisé en septembre 2015 avec le petit Elan qu'on a retrouvé sur la plage mort, noyé. Aujourd'hui, il y a des petits Elan tous les jours et tout le monde s'en tape, quoi. Et ça, c'est vraiment, on s'habitue à l'horreur et c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Donc, l'Europe a échoué, la France a échoué. Ils sont tous sur le même discours. Et qu'est-ce que les politiques européennes qui ont été mises en place ont créé? Ils ont créé l'avènement de l'extrême droite au pouvoir en Italie. Parce que le système Dublin a fait qu'on a renvoyé en Italie ou en Grèce tous les gens qui étaient arrivés par là. Et moralité, et la Grèce, c'est une catastrophe. Et l'Italie, c'est une catastrophe aujourd'hui. On n'a pas eu de solidarité européenne qui s'est mise en œuvre. On a mis des dispositifs, et on paye à coups de milliards, des dispositifs pour garder les frontières derrière. Or, aucun dispositif n'a jamais garanti l'étanchéité d'une frontière. Et on l'a vu à travers les guerre, à travers l'histoire, et heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on a sauvé des millions de juifs de la mort certaine s'il n'avait pas eu les passeurs qui permettaient de franchir les Alpes à un moment donné pour venir se réfugier en France, ou d'ailleurs des Espagnols qui fuyaient le franquisme, ou des Italiens qui fuyaient Mussolini à l'époque. Voilà, donc on sait très bien que ça ne fait qu'une chose, ces gardes-frontières, c'est que ça surenchérit le passage. Moi, je le vois sur ceux qui passent chez moi et qui veulent aller en Angleterre. Il y a quelques années, en 2015-2016, le coût du passage, c'était entre 500 et 800 euros. Aujourd'hui, c'est entre 10 000 et 14 000 euros parce que c'est plus compliqué. Donc, du coup, les passeurs demandent beaucoup plus aux gens qui veulent passer en Angleterre. Ouais. Voilà ce que c'est que ces dispositifs, voilà ce qu'ils créent. Donc, c'est une catastrophe sur laquelle il faut vraiment qu'on travaille. Moi, mais ma première intervention au Parlement européen, ça a été de demander que l'Europe mette en place un dispositif urgent en Méditerranée pour arrêter ces morts qui sont là, parce qu'on nous parle de chiffres de morts depuis le début de l'année. On est content parce qu'on dit il y en a moins que l'année dernière, forcément avec l'accord qu'on a passé avec la Libye, mais allons regarder ce qui se passe dans les prisons libyennes et ce qui arrive à ces chercheurs de refuge qui passent par la Libye. C'est une catastrophe, c'est la torture, ils sont carrément abattus, et malgré tout il y a plein d'autres morts qui sont pas comptabilisés. J'ai vu des ONG tunisiennes qui m'ont dit que les pêcheurs en Tunisie remontaient tous les jours des morts, des cadavres de leurs filets, et ceux-là ne sont pas comptabilisés dans les morts qu'on retrouve en Méditerranée.
Il n'y a pas très longtemps, là, Macron a fait un petit speech au sujet de cette problématique des réfugiés. Est-ce que, la réponse est un peu dans la question, est-ce que tu crois que ce gouvernement-là va changer sa politique d'accueil et sa réflexion ?
Oui, mais il en parle, il en a parlé pendant les élections présidentielles, il en a parlé après, mais tout ce qui est fait, ça va à l'encontre. La loi asile-immigration qui a été votée en février 2018 est une catastrophe. Hein. Et elle est l'œuvre de Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et que quand j'avais vu en rendez-vous avant cette loi-là, c'était en septembre 2017, dans son bureau Place Beauvau à Paris, au ministère de l'Intérieur, il m'avait dit, mais la politique migratoire de Collomb, c'était ouvrir les guillemets, on va leur faire passer l'envie de venir chez nous, fermer les guillemets. Le ministre de l'Intérieur qui vous dit ça. Donc voilà, et la loi asile-immigration derrière arrive, on est à 15 jours de rétention, on passe à 90 jours, voire 120 jours, on fait des entretiens par vidéo parce qu'on n'a plus le temps, il n'y a plus rien, on met les gens en centre de rétention, enfin, c'est une catastrophe sans nom. Donc d'abord qu'il abroge cette loi, et après on verra s'il y a de l'humanité dans l'accueil. Et Castaner arrive derrière, il est pire que Collomb parce qu'il est moins intelligent et il veut montrer qu'il est plus dur que le chef. Et donc voilà, il se lance dans des choses inadmissibles, mais on le voit ailleurs, il remet des médailles aux flics qui sont aujourd'hui impliqués dans des choses pas claires. Donc, j'attends de voir. Moi, vous savez, les paroles, je m'arrête plus aux paroles. J'ai besoin d'actes. Et je verrai, puisqu'il y a un nouveau bateau qui a été affrété par SOS Méditerranée et MSF, au prochain naufrage, je verrai si la France accueille ce bateau.
Sur toute la durée de tes mandats à Grande-Synthe, quelles ont été les plus grandes difficultés, les plus grands obstacles ? Est-ce que c'était sur le territoire de Grande-Synthe ou plutôt du côté de l'État dans les confrontations aussi qu'il y a pu y avoir Il y a eu beaucoup de difficultés.
Ouais, il y en a eu beaucoup, mais finalement, au plus on en rencontre des difficiles, au plus les autres, elles nous paraissaient presque anodines par la suite. La difficulté migratoire, la prise en compte de ces chercheurs de refuge est une vraie difficulté, mais elle n'est pas que grand-synthoise, elle est nationale, et elle est nationale partout où l'État refuse de mettre en œuvre des solutions. C'est tout le littoral de la mer du Nord, de la Manche, où il y a des gens qui veulent, là où il y a des villes avec des lignes de ferry qui vont vers l'Angleterre, il y a des regroupements de gens. Alors on disperse, on invisibilise le problème, on refuse de mettre des lieux d'accueil de ces personnes-là, craignant le point de fixation, l'appel d'air, c'est conneries que j'entends depuis 12 ans. Moi, j'entends ça depuis le début de cette l'arrivée de ces chercheurs de refuge. Le seul point de fixation, le seul appel d'air, il s'appelle Angleterre. Si vous retirez l'Angleterre, les gens, ils viennent plus sur notre territoire. Ils vont chercher ailleurs une solution. Donc voilà. Ça, c'est une difficulté. Ça a été d'essayer de leur faire comprendre et de les faire bouger. Ils sont arc-boutés dessus. Les ministres passent et j'en ai vu quelques-uns depuis que je suis confronté au problème. J'ai eu Valls à un moment, ministre de l'Intérieur. Je me demande si j'ai pas commencé sous Sarkozy d'ailleurs en 2004. Valls, j'ai eu Cazeneuve qui était finalement le moins pire de tous. Il y a eu Collomb, il y a eu Castaner. Il y en a quelques-uns qui sont passés mais qui sont pas restés longtemps. Mais j'ai l'impression que les ministres changent, mais l'administration reste la même derrière, et donc les politiques sont les mêmes. Là aussi, c'est un vrai sujet. Et Macron, pendant la campagne présidentielle, on pouvait être séduit par son discours autour des migrants, par exemple. Je sais qu'il était conseillé par Danny Cohn-Bendit sur ce point-là, et je pense que Danny, effectivement, a orienté les discours du président, mais finalement, une fois qu'il est au pouvoir, il ne fait pas du tout
ce qu'il s'est engagé.
Oui, non, mais sur celui-là en particulier. Et moi, c'est une difficulté que j'ai rencontrée, que je rencontre aujourd'hui. Et donc, le réseau, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, c'est justement pour contrebalancer, faire un lobbying contre cette idée reçue que les gens ils acceptent pas les réfugiés, qu'ils en veulent pas, etc. etc. J'ai montré en accueillant des réfugiés sur ma ville que j'ai relégué le Front National ailleurs. Donc on a fait baisser les scores de l'extrême droite. Donc c'est possible de le faire quand on fait de la pédagogie, quand on explique, quand on arrête de jouer avec le sentiment de peur, de crainte, de fantasme. C'est complètement, ça se joue de manière différente. Après, il y a des dossiers qui sont extrêmement lourds. La rénovation urbaine, par exemple, sont des dossiers très longs dans lesquels, bien souvent, la technostructure française oublie qu'il y a des habitants qui sont dedans, quoi. Moi, j'ai un quartier que j'ai commencé les premières réunions avec les habitants en 2001. On est en 2019, il n'est pas terminé. Il y a des habitants que ça fait 20 ans qu'ils sont dans les travaux, dans un quartier en travaux. Or, rien ne justifie la longueur de ces travaux. C'est simplement l'administration derrière qui est lourde. Or, le maire est quand même le mieux placé de la manière dont ça fait. Qu'il y ait un contrôle des données et de l'utilisation des données publiques, ça, c'est complètement normal. Mais ça ne demande pas de bloquer comme ça les dossiers. Ça, c'est des longues bagarres qu'on a sur l'administration française. Après, sur le pouvoir politique, oui, la non-décision politique gouvernementale fait que j'ai tous les problèmes chez moi. Enfin, moi, la ville de Grande-Synthe était une ville qui rassemble beaucoup des crises, la crise économique, la crise économique, ouais. La crise sociale, la crise migratoire, la crise, enfin toutes les crises, la crise environnementale. Moi, je suis menacé, on est en territoire de polder, par la montée des eaux, les précipitations, l'accentuation ou même des épisodes de sécheresse qui vont sécher les terres d'argile. Donc voilà, on est même soumis à ça sur ces territoires-là. Et oui, l'inaction des gouvernants fait que ça accentue les crises au lieu de les résoudre.
Mais tu penses quand même que le rôle d'un maire, enfin un maire peut agir véritablement.
Il peut agir sur plein de choses.
Ouais. Mais pour autant, parallèlement, on a entendu quand même ces derniers temps que les maires avaient beaucoup de difficultés et démissionnaient, se plaignaient du manque de moyens, de pas mal de choses.
Ouais, mais enfin, moi c'est souvent ce qu'on me dit. Ouais, mais tu peux faire ça parce que t'as de l'argent. Parce qu'on a de la recette de la taxe de la taxe des entreprises qui sont là, certes, mais quand on calcule, et c'est l'État qui fait ça, Bercy, donc on peut pas lui dire non plus que c'est un gaucho écolo, hein, le ministère à Bercy, ils font un calcul pour savoir si on a le droit à une dotation spécifique une dotation de solidarité urbaine, et la ville de Grande-Synthe est classée 26e ville la plus pauvre de France quand on prend les richesses fiscales et les difficultés sociales. Donc j'ai énormément de difficultés sociales par rapport à la richesse de la ville. Mais plein de choses qu'on met en œuvre à Grande-Synthe, la nature en ville, les jardins populaires, la fabrique de l'autonomie, les logements passifs, ça coûte rien à une ville le logement. On n'a pas de compétences en matière de logement. C'est simplement de la négociation avec les bailleurs pour qu'ils fassent du logement passif sur la ville. Et c'est les mettre en concurrence pour avoir des bailleurs qui s'engagent sur ces voies-là. À l'agglomération, négocier la gratuité du transport urbain, c'est une négociation politique. Si ça coûte à l'intercommunalité, pas à la ville même, mais à l'intercommunalité. Passer du bio, 100% bio à la cantine scolaire, oui, ça a eu un surcoût de 20% à un moment donné. Mais aujourd'hui, comme je suis en bio local, je vais éliminer les intermédiaires et donc du coup, je vais retrouver le prix d'avant. Et en plus, j'aurai créé de l'emploi local avec des jeunes maraîchers qui cherchaient des terres et qu'on va remettre dessus. Et du coup, on va entretenir des sols sans pesticides, sans rien derrière. Donc, et puis après, il y a cette logique effectivement, l'élu local pourrait, enfin, dépend de subsides nationales, Et il y a peut-être une autre comptabilité à mettre en œuvre en France. Je reprenais un exemple qu'un eurodéputé, le paysan Benoît Biteau, qui a été élu en même temps que moi, m'a sorti il y a pas longtemps. Il est en agroécologie. Il prend le coût de la salade bio qui est à 1 €, la salade conventionnelle à 70 centimes d'euros, mais la Cour des comptes, autre organisme qu'on peut pas taxer d'écolo-gaucho, a compté ce que les externalités négatives de la salade conventionnelle, le vrai coût, c'est entre 17 et 27 euros de la salade non conventionnelle.
Sur la santé, sur les sols, sur...
Sur le traitement de l'air surtout, etc. Et quand est-ce qu'on va mettre cette comptabilité en place? Parce que la salade bio, elle coûtera toujours 1 euro. Donc quand on dit qu'elle est plus chère que l'alimentation bio, c'est plus cher. Non, c'est pas plus cher, c'est beaucoup moins cher. Sauf que le coût, il n'est pas collectivisé, contrairement à la salade conventionnelle. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive, c'est ce système-là qu'il faut qu'on arrive à changer dans notre pays. Donc le maire a beaucoup de leviers, peut faire, et c'est pas forcément une question d'argent, c'est une question de sortir des sentiers battus de la politique, d'essayer d'autres solutions, et puis d'arrêter de penser à ses réélections aussi.
Et justement, pour essayer de transformer à plus large échelle le système politique, quelle analyse de la reconfiguration du champ politique tu as entre une droite qui a à peu près disparu ou qui a migré vers l'extrême droite, une gauche qui est super fractionnée? Comment les gauches vont pouvoir se rassembler aussi pour les prochaines élections nationales?
Je vais pas faire du Yannick Jadot qui avait dit pendant la campagne européenne « ni gauche ni droite, c'est l'écologie ». Quand il a voulu dire ça, c'est vrai que ça peut heurter. Il y a une chose, moi, la gauche qui a été, la dernière gauche qui a été au pouvoir, socialiste, elle était productiviste, elle n'était pas écolo. Elle était pro-nucléaire, elle était pro-agriculture non durable, elle était pro-tout ce qu'on veut derrière. Donc, ça n'a pas changé. Donc, moi, cette gauche-là ou une droite, c'est pareil. La seule chose qui peut changer, c'est le côté social. Il y a eu le mariage pour tous. Donc, c'est des lois sociales, généralement, qui marquent une politique de gauche plutôt qu'une politique de droite.
Et la loi travail aussi.
Ouais, la loi travail, on peut pas dire que ça soit une politique de gauche.
D'accord.
Bon. Donc voilà. Moi, quand on me dit, c'est comment on recompose la gauche et comment on recompose la droite, quelle gauche? C'est pas la gauche, moi, qui m'intéresse de reconstruire non plus. C'est de se dire quelle société on veut. Mais c'est vrai aussi chez la France insoumise, hein, où il y a des pro-nucléaires, des productivistes dedans, parce qu'il faut de l'emploi pour les gens, etc., etc. Ben non, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Et donc, c'est quel projet de société on met en avant. Et il peut y avoir des gens de droite. Moi, il y a des gens de droite que je vois qui ont ouvert des centres d'accueil de réfugiés. Si je prends le maire de Bayonne, par exemple, que j'ai rencontré pendant la campagne, et il a ouvert un lieu d'accueil pour les chercheurs de refuge qui arrivaient sur sa ville, contre l'avis du préfet, contre l'avis de l'État. Et tous les jours, il passe voir comment ça se passe à 22h. Il va prendre des nouvelles, des chercheurs de refuge, des bénévoles qui encadrent parce que c'est pas financé derrière. Et voilà, donc il y a des mecs de droite qui sont plus de gauche que des mecs de gauche qui ont des fois des attitudes frisant l'extrême droite. Donc voilà, moi ça veut ce champ-là. Et puis on a l'autre qui est arrivé ni gauche ni droite. Enfin voilà, donc je crois qu'il y a une ambiguïté là-dessus. Donc c'est quel projet de société on veut, comment on veut réformer en profondeur et la nécessité absolue de changer le système, sinon on va à l'effondrement. Enfin, l'effondrement qui est en train de... Les collapsologues aujourd'hui, ils sont en train de faire quand même beaucoup d'adeptes. Et je trouve ça malheureux parce que quand on dit c'est fini, on va tous crever, on a tendance à plus rien faire ou à faire la fête jusqu'au bout et donc de profiter du système. Donc moi, je trouve que ça peut être dangereux derrière, même s'il faut du réalisme et j'en ai. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent bagarre perdue d'avance, on sait qu'on mène pas. Donc il faut mener bagarre, il faut aller vite. Et donc, c'est rassembler les gens qui veulent radicalement changer le système. Ça veut dire sortir du modèle dans lequel on est, dans tous les champs du quotidien, dans la redistribution financière, dans l'accueil des chercheurs de refuge. Tout ça, c'est un vrai projet de société.
Justement, on a l'impression là que les mouvements écologistes vont vers une radicalisation. Dans la société civile, ça paraît voilà, assez évident. Pour autant, est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça peut suffire juste de toujours être en demande d'action de l'État? Parce que quand on voit par exemple le mouvement Extinction Rebellion qui va bloquer des ponts ou des choses comme ça, mais finalement c'est toujours une revendication d'une action urgente de la part de l'État. Et on a en retour des gaz lacrymogènes, etc. Donc où est-ce que ça peut mener
Ah non, mais c'est tous les groupes qui existent aujourd'hui, tous les mouvements Alternativa, COP21, ANV COP21, ATTAC, enfin, il y a plein de mouvements de société qui sont extrêmement intéressants parce que quand c'est un politique qui dit des choses, on a l'impression que c'est une manipulation politique, un discours politique, etc. Quand c'est des associations, des citoyens, ça passe autrement. Donc, je crois que la multiplicité de l'approche de ces mêmes problèmes par des mouvements différents, mais qui ont tous le même but, en se disant il faut qu'on change, il faut qu'on arrive à changer. Quand tu dis que ça monte dans la société civile, oui, mais ça monte pas encore vite parce qu'on a tout le travail à faire contre quand même le martelage des médias sur la petite maison, le rêve de la petite maison dans la prairie, le SUV qu'il nous faut à tout prix avec un pare-buff. Là, on sait jamais en ville si on croise un buff. Enfin, non, mais on en est là, quoi. Je veux dire, et donc il faut qu'on ait cette prise de conscience dans la société qui doit se multiplier. Après, c'est très utile. Mais à un moment, il faut que de ces mouvements, et c'est un peu là, on approche les municipales, il va y avoir une question cruciale. Les municipales, c'est dans 9 mois. Comment des personnes de ces mouvements vont s'intégrer vont prendre des responsabilités politiques. Et là, il y a moins de candidats. Enfin, de ce que je peux noter en France aujourd'hui pour faire le tour de beaucoup de villes, il y a plein de mouvements, il y a peu de candidats pour les listes municipales demain. Et c'est là quand même qu'il y a un jeu de pouvoir. Il y a l'État, oui, mais on peut commencer à un niveau local. Et plus il y aura de villes en France, plus il y aura de régions ensuite en France qui changeront de paradigme, plus l'État derrière, parce que vous savez, l'État, à un moment, il émane quand même de toutes ces instances-là, donc même s'il y a une élection, mais c'est quand même, s'il y a des choses qui se mettent en place, multipliées en ville, les gens vont se dire, vous voyez, c'est possible, donc ils voteront à un moment donné au sommet de l'État pour des gens qui mettront en œuvre ce nouveau paradigme, ce nouveau modèle de développement. Donc c'est utile, mais c'est pas suffisant. Et puis oui, l'État a des responsabilités, puis il faut y aller, quoi. Moi, j'ai porté plainte contre l'État pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Il faut que les associations y aillent, il faut que tout le monde y aille. Il faut qu'on la preuve de l'État. Enfin, sur la qualité de l'air, on a 15 ans de retard. Ça bouge à peine. Or, il y a 63 000 morts par an. On On nous emmerde, mais à juste titre, parce que dès qu'il y a des vies à sauver, il y a pas de... et une mesure à 80 km/h, d'ailleurs, ça me fait doucement rigoler, on maintient ça, puis après, on se dit, bah, finalement, ils vont pouvoir l'adapter, pour quand même 1000 morts, je crois, ou je sais pas, même pas, quelques centaines de morts. C'est trop, hein, un mort de, sur les routes, c'est trop. Mais 63 000 morts de la pollution atmosphérique, et là, il n'y a plus un candidat. En France, on n'a pas rappelé tous les véhicules. On n'a pas obligé tous les constructeurs à rappeler tous les véhicules pour modifier le Dieselgate, là, ce qu'on a mis en avant derrière. Mais enfin, quand même, c'est scandaleux ce qui se passe chez nous. C'est de l'hypocrisie totale.
Sur le sujet de la plainte pour inaction climatique contre l'État, pourquoi avoir choisi cette voie du contentieux climatique qui n'est pas très développé en France? C'est un peu les débuts de ce genre d'action.
Ben parce que à un moment donné, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir législatif, il y a des hommes qui arrivent, comme un Nicolas Hulot qui rentre au gouvernement, dont on, enfin voilà, quand on partage quand même beaucoup de ses idées, quand on voit que lui abandonne, jette l'éponge au bout d'un an en disant mais c'est pas possible, j'ai tout perdu contre les lobbies, etc. Quand l'Assemblée essaie de porter des choses que ça marche pas, donc le pouvoir législatif, bah il y a plus que la justice quoi pour essayer de faire en sorte que l'État respecte les engagements, ses engagements nationaux, internationaux, européens et tous les engagements, parce que ça va de la déclaration des droits de l'homme jusqu'à la COP21 de Paris, quoi, les engagements de la COP21. Mais donc, à quoi ça sert de signer des trucs si on les respecte pas? Donc, faisons respecter. Il y a quand même eu un certain nombre de pays dans le monde où il y a eu des attaques d'un certain nombre de d'ONG, d'associations ou de citoyens. En Europe, on a eu les Pays-Bas qui a fait en sorte que la justice condamne quand même l'État néerlandais à mettre en œuvre des moyens. Et c'est ça que je vise. Donc, si en France, il faut en arriver là, parce que les ministres et le gouvernement restent complètement fermés sur ces orientation politique, et ben essayons cette voie-là.
Est-ce que tu penses que la question de l'optimisme ou du pessimisme est encore pertinente vis-à-vis de la situation, pas seulement écologique, mais de la multitude de crises?
Ben, moi, je suis un optimiste né, mais parce que je vois que, ben, on reprend un exemple de ces derniers jours là, la population des tigres a repris de 30% en Inde. Donc je me dis, mais quand on a envie de sauver quelque chose, on est capable de le faire et de manière relativement rapide. Donc là, il suffirait de se donner les moyens. Il y a sans arrêt. Moi, ce que j'ai montré dans ma ville, c'est que c'était possible de le faire. Ma phrase politique, c'est une phrase de Gandhi qui dit le meilleur moyen de montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Voilà, j'ai voulu montrer que c'était possible. Et une fois que vous montrez aux gens que c'est possible, du coup, vous créez un facteur d'entraînement derrière. Et ça se multiplie. Et les gens deviennent acteurs de tout cela. Donc, moi, je pense que c'est possible. Et il faut surtout pas se cantonner en disant, ouais, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, quoi, y a plus rien à faire, c'est mort, regarde les dernières études, c'est 18 mois, on n'en sortira pas. Mais je comprends ces gens-là. Je suis allé en septembre à Bordeaux.
À Darwin, ouais.
D'accord.
Climax.
Ouais, en septembre dernier. Ouais. Le dimanche matin, j'ai assisté à une conférence avec Yves Cochet. Ils étaient trois dessus. Mais quand je suis sorti de là, si j'avais une corde pour me pendre, je me serais pendu. Je me dis, mais non. Enfin, il y a des choses à entreprendre. Alors oui, certes, on sera plus en dessous d'un 1,5 degré, on n'y arrivera plus. Mais si on peut limiter à 2, 2,5 plutôt que d'être à 5 ou 6 ou 8 comme certains le prédisent, c'est quand même mieux, quoi. Je veux dire, ce qu'on a vécu la semaine dernière, moi, j'ai pas envie de le vivre indéfiniment. Donc il faut qu'on. Je suis un optimiste, mais c'est pas un optimisme complètement farfelu. C'est que c'est possible. Je suis persuadé que c'est possible. Ça demande des revirements. Très fort, mais ça veut dire aussi que chacun des citoyens devienne acteur. C'est-à-dire, les voyages en avion, c'était derrière nous. Ou alors on met le même prix, on met le vrai prix du voyage en avion, comme la salade de tout à l'heure.
Mais en fait, ce qui m'étonne, quand je t'entends parler, pas que là, quand je t'ai vu à la télé, à la radio, etc., c'est que en fait, t'as quand même une grande expérience du monde politique, de la bataille, etc., et puis des expériences quand même difficiles avec les chercheurs de refuge, etc. Est-ce que l'inhumanité des hommes et des femmes qui gouvernent, t'as pas des moments dégoûtés complètement?
Des fois, j'ai envie de mettre des claques. Ouais. Mais je me dis, c'est con, ils savent pas à côté de quoi ils passent.
Ouais.
Parce que je vois comment les impacts sur ma population, comment ma population, qui pourtant est dans la difficulté sociale, a accepté la présence de ces personnes et le fait qu'on aide ces personnes. J'ai pas eu de manifestation, j'ai pas eu de pétition, parce qu'on a expliqué, on a fait cette pédagogie auprès de la population. Et quelle richesse on a retiré de ça. Quelle fierté les habitants, ils ont retiré de ça. Et quand vous redonnez de la dignité à vos habitants dans une ville, mais qu'est-ce qui peut être plus beau qu'un homme politique que de rendre cette fierté, cette dignité à ses concitoyens derrière? Et ben, je me dis que ça, c'est possible en politique. Donc oui, il y a des cons. Je le dis comme ça, qui empêchent, qui tiennent des discours complètement foireux, mais c'est pas eux qui doivent gagner. Enfin, moi, encore une fois, je suis déterminé à me battre. Je me suis battu au niveau local, au niveau national, et je continuerai au niveau national. Je suis député européen, j'ai quand même des choses à dire dans ce pays, et au niveau européen, et je me battrai fort de l'expérience locale et des réussites locales pour aller dire non, non. Il n'y a pas de fatalisme. Il y a simplement changer vos décisions, changer la manière de conduire de ce monde, cette société dans laquelle on est, et on aura des résultats. Me dites pas que c'est pas possible. C'est possible. Donc, il manque la volonté derrière. Donc, oui, moi, ça me procure un optimisme et des fois, j'ai envie de leur dire, mais que de temps perdu. De toute manière, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez y arriver à ça. À un moment donné, vous ferez renverser de toute manière parce que les gens ne supporteront plus. Et ben voilà, tant pis. Mais il faut laisser à chacun le temps de maturer un peu pour prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, en amenant des preuves que ça fonctionne. Et je suis pas le seul, hein, y en a plein d'autres en France qui font plein de choses. C'est moins médiatisé, ça se sait moins parce que les projecteurs des médias se sont pas focalisés dessus à un moment donné. Mais il y a plein de choses. Moi, j'en découvre. Il y a plein de collègues maires qui font dans des villages de 300 habitants des choses extraordinaires. J'en ai découvert pendant la campagne dans les Alpes que je connaissais pas, mais des choses vraiment très fortes. Donc voilà, il y a plein de choses qui partent sur le terrain et ça me booste, quoi.
Merci beaucoup, Damien.
De rien, Alexa.
Merci infiniment à Damien Carême pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre soutien. Les messages que vous m'envoyez me font toujours très plaisir. Pour soutenir Présage, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter ou me suivre sur les réseaux sociaux. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawel, mixé par Paloma Colombe. À très vite.